Ce matin, j'aimerais voir avec vous les recommandations de Paul vis-à-vis de l'église d'Éphèse. La parole d'aujourd'hui, c'est dans les Actes chapitre 20, où Paul fait ses adieux avec les responsables de l'église d'Éphèse. Est-ce que tu peux mettre le slide? Je me suis dit que pour la rentrée scolaire, on pourrait peut-être entendre les recommandations que Paul laisse aux églises d'Éphèse. Et j'aimerais tout d'abord vous parler du contexte de ce texte dans chapitre 20. C'est dans les Actes chapitre 20. Avant de faire la lecture, j'aimerais quand même qu'on regarde d'abord la carte. Merci. Voilà, ça c'est donc la carte du troisième voyage de missionnaire de Paul. Donc Paul fait plein de voyages dans l'Empire romain, librement, sans contrainte, pour pouvoir évangéliser. Je me dis que le Seigneur utilise aussi l'histoire de l'humanité pour faire avancer l'Évangile, et c'est ce qu'il a fait. À l'époque, les Romains avaient tout planifié. Enfin, comment on dit ça Comment ? Voilà. Donc, on dit comment? L'Empire romain a fait plein de routes, du coup, on pouvait justement circuler beaucoup plus rapidement qu'avant, et ça a permis aussi de faire avancer l'Évangile beaucoup plus rapidement. Bref, après un voyage en Macédoine, donc là, vous voyez la Macédoine là-haut, hein, c'est la Grèce actuelle, et il décide de rentrer à Jérusalem. Il va donc passer par Troie, que vous voyez là-haut. Vous voyez ? Ensuite, juste en bas de Troie, c'est la ville Assos. Donc, il y va aussi en bateau. Et pour aller à Jérusalem, il passe encore dans la ville de Milet. Mais il ne passe pas à Éphèse. Donc, là, vous voyez Troie. Ensuite, vous voyez Milet. Il s'arrête à Milet au lieu de peut-être de passer par Éphèse. Pourquoi il ne passe pas à Éphèse? Mais avant d'y aller à Milet, il demande aussi aux gens, aux responsables d'Éphèse, de venir à Milet pour pouvoir le rencontrer. Si c'était moi, je me serais arrêté à Éphèse même, puisque, en fait, c'était la ville où il est passé le plus de temps. Il a consacré 3 ans de sa vie pour évangéliser, et donc c'était une église où il était beaucoup plus, il avait beaucoup d'affection, il était très attaché à cette église. Mais il ne passe pas, en tout cas, à Éphèse, mais il va directement à Milet. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il voulait absolument être à Jérusalem pour la Pentecôte, afin de retrouver tous les chefs de l'église judéo-chrétienne de Jérusalem pour pouvoir aussi parler, et puis pour le projet de l'église. Et puis deuxièmement, parce que s'il s'était arrêté à Éphèse, ben, c'est vrai qu'Éphèse est un endroit qui lui comptait beaucoup, et comme Paul avait beaucoup d'amis là-bas, il n'aurait pas pu aussi arrêter sans leur consacrer beaucoup de temps pour ses adieux. Donc il demande juste aux responsables d'Éphèse de venir le voir, le rejoindre à la ville de Milet, qui se trouve 80 km d'Éphèse, que vous voyez sur la carte. Paul donc rencontre enfin les anciens, les responsables de l'église d'Éphèse dans le chapitre 20, dans les Actes chapitre 20. Je vais vous lire à partir de verset 18. Voilà. Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes. Jusqu'ici. Il est en train de dire, vous savez, comment j'étais avec vous. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes aussi. C'est une expression que nous pouvons revoir au verset 31, où il est dit, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. On voit un petit peu le comportement d'un vrai responsable de l'Église qui prie, qui intercède pour les fidèles avec larmes, avec empressement et avec beaucoup d'amour, bien sûr. J'ai l'impression qu'il se comportait comme une maman qui allaitait son enfant. En tout cas, il est en train de dire, je vous ai montré l'exemple, j'ai été un bon leader, je vous ai aimé, et faites aussi comme moi. Maintenant que je vous quitte, faites comme moi. Et je continue la lecture, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, il est encore en train de dire que, oui, certes, je vivais des moments de persécution. Il y avait des Juifs qui étaient présents, qui nous apportaient pas mal de souffrances, mais malgré tout, voilà, j'ai continué à annoncer l'Évangile. Dans les Actes, on voit ce moment où Paul décrit sa souffrance. Alors que dans le livre des Éphésiens, si nous cherchons, si vous voulez trouver les épreuves qu'il a pu traverser dans le livre des Éphésiens, vous ne pouvez pas trouver, puisque en fait, comme le livre d'Éphésiens, ça c'est entre parenthèses, comme le livre d'Éphésiens a été écrit pour toutes les églises, c'est un livre circulaire. C'est pour ça que nous ne voyons pas les persécutions, mais ici. Il s'adresse directement aux responsables d'Éphèse, et c'est pour cela que nous pouvons voir des précisions. Au verset 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Oui, Paul est en train de dire, même s'il y avait des difficultés, même s'il y avait des dangers, même s'il y avait des persécutions, des adversités, je n'ai pas hésité à apporter l'Évangile en public. Et même aussi dans les maisons, annonçant aux Grecs et aux Juifs. Quel message qu'il a prêché ? La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une recommandation. Donc, continuez à évangéliser, continuez à annoncer aux gens qui sont autour de vous la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait prendre cela pour notre Église. Oui, Seigneur, nous invite vraiment à continuer à aller de l'avant avec cette rentrée scolaire, à prêcher la repentance et aussi la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de religions qui croient en Dieu, mais seulement les chrétiens qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il est dit que nul ne vient au Père que par le Fils. Et c'est pour ça que nous prêchons le Fils. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ est très importante. À l'époque, les Juifs croyaient aussi en Dieu. Mais il était important que les gens sachent qu'on était sauvés par le Fils, par le sacrifice du Fils. Que l'Église Vendeuvre puisse continuer à prêcher la repentance et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue la lecture au verset 23. Seulement de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul avait reçu un certain message de la part du Saint-Esprit qui lui disait, tu vas vivre des moments difficiles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce serait super d'entendre directement la voix du Saint-Esprit qui vous dit, voilà ce que vous allez vivre. Mais lui, je ne sais pas si c'est super, parce qu'il entend, la voix du Saint-Esprit qui dit, bah, tu vas vivre des moments difficiles. Est-ce que ça vous allez être content d'entendre ce genre de message? En tout cas, il avait entendu ce message de persécution. Il savait qu'il allait vivre des moments de tribulation. non seulement ce message a été entendu directement par le Saint-Esprit, mais aussi par les personnes qui avaient des dons de prophétie et qui avaient reçu aussi le même message et qui aussi a transmis ce message à Paul même en disant, tu sais, nous avons entendu que tu vas vivre des moments difficiles là-bas ou à Jérusalem, non, n'y va pas. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous entendez ce genre de message? Dans cet exercice de l'annonce de l'Évangile, Paul n'a fait aucun cas de sa vie. Pour lui, sa vie n'était pas importante. Je dirais même, il n'avait pas peur de mourir pour le Seigneur. Paul savait que sa fin était proche, mais il était déterminé de se rendre à Jérusalem même, parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu. Je continue la lecture. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. D'abord, comme je vous avais dit, là il s'adresse d'abord aux responsables de l'Église, en disant, avant d'enseigner quoi que ce soit aux ouailles, avant de prêcher la parole de Dieu, avant d'apporter aux gens la repentance et aussi la foi en Jésus-Christ, prenez donc garde à vous-même. Examinez-vous vous-même, c'est ça en fait. Veillez à ce que vous soyez vraiment sous la parole de Dieu. Vous, évêque, pour paître l'Église du Seigneur. Donc, je rappelle encore, nous qui sommes à Vendeuvre, et surtout les responsables de Vendeuvre, que ce soit les responsables des cellules ou les responsables de l'école de dimanche, il y a plein d'activités où il y a pas mal de responsables, en commençant par le pasteur. Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas une fonction. C'est une vocation que le Seigneur nous a adressée à tous aussi. Et qu'est-ce que nous devons faire? Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Paul savait très bien qu'après son départ, des soi-disant chrétiens, mais des faux chrétiens, pourraient entrer dans l'Église pour mettre à la division, pour peut-être apporter une théologie hérétique. Et c'est pour ça qu'il dit, des loups cruels n'épargneront pas le troupeau. Il y aura des dégâts, mais c'est pour ça que nous devons faire attention, être droit dans la parole de Dieu. Donc, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je ne cessais jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun de vous. Veillez en s'examinant soi-même, comme les vierges sages qui avaient préparé de l'huile pour répondre à l'appel du Seigneur. Suivez l'exemple de l'apôtre Paul qui a aussi veillé avec les larmes de douleur, de piété, d'angoisse, mais aussi de joie et d'amour. Et ce sont ces larmes-là qui ont gagné les cœurs des personnes au Seigneur. C'est un message, en tout cas, adressé aux responsables, mais aussi à toute l'Église. Il ne faut pas considérer ce message en se disant que ça ne me concerne pas. Non, vous êtes aussi appelés. Puisque vous savez tous très bien que depuis la venue de Jésus, depuis la venue du Saint-Esprit, nous sommes devenus tous des sacrificateurs. Sacrificateurs. Je continue la lecture à partir de verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Tous les sanctifiés. Je ne sais pas comment vous vous sentez, ce discours. Il sait très bien qu'il vit ses derniers moments avec les gens avec qui il avait beaucoup partagé, avec qui il avait beaucoup d'affection. Il est en train de dire un dernier adieu. Ce discours est vraiment touchant par la profondeur de ses sentiments. Et aussi, on voit vraiment son amour qui est exprimé dans chaque phrase. On voit vraiment aussi son amitié, l'exemple de fraternité chrétienne ici. Oui, il avait pris soin d'eux, il les a aimés. Au verset 32, Paul les recommande donc à Dieu et à la parole de sa grâce. Qu'est-ce que ça veut dire recommander ? J'ai cherché dans le dictionnaire, dans la Larousse, recommander veut dire désigner quelqu'un à l'attention bienveillante et à la protection d'une personne. Recommander quelqu'un. Désigner à l'attention bienveillante, à la protection d'une personne. Au fait, la recommandation, encore une autre définition que j'ai pu trouver dans le dictionnaire, la recommandation est un acte par lequel, au Moyen-Âge, un homme faible le recommandait, se mettait sous l'autorité et sous la protection d'un homme puissant. Ici, notamment, c'est Dieu et la parole de sa grâce. Paul est en train de recommander à toute l'Église, toutes ces personnes, à Dieu et aussi à la parole de sa grâce. Il y a vraiment un lien de vassalité. Paul demande d'être soumis à Dieu. Paul demande à toute l'Église d'être soumis à la parole de Dieu. D'ailleurs, il dit la parole de sa grâce. Tout est grâce, oui. Puisque tout est grâce, il n'y a rien à se vanter. Tout a été réalisé par la grâce de Dieu. Donc, en pensant à notre Église, soyons sous l'autorité de Dieu, sous la protection, sous l'autorité de la parole de sa grâce, et vraiment, soyons dans cette grâce immense. Plongeons-nous dans cette grâce. Moi, j'aime bien donner cet exemple. Vous savez, est-ce que vous savez tous nager ? Plus ou moins, normalement, si on est en France, on a appris à nager. Je sais que ma femme, elle peut nager pendant une heure dans la mer sans revenir. Quand on va à la plage, moi, je la vois pas revenir avant une heure. En tout cas, je sais qu'en France, on nage. Mais il y a des gens qui ne savent pas nager. Et en Corée, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nager. Parce qu'on ne fait pas ce genre d'apprentissage de natation là-bas. Mais lorsqu'on veut vraiment apprendre à nager, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se plonger. Il faut plonger dedans. Mais il y a des enfants qui mettent juste les pieds, comme s'ils pataugeaient comme ça, et sans vouloir apprendre. Si on ne se remet pas complètement dans l'eau, on ne peut pas apprendre à nager. De même, pour être dans la grâce de Dieu, il ne faut pas juste goûter la grâce. Parce qu'il y a des gens qui goûtent la grâce et qui abandonnent. Ou c'est comme un libre service. On vient, on se sert le dimanche matin, et puis dans la semaine, maintenant on oublie parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Non, ce n'est pas comme ça qu'on vit. Quand on dit être dans la grâce de Dieu, être plongé dans la grâce de Dieu, c'est comme si on était dans l'eau, dans la grâce. Il ne faut pas papillonner autour de la parole de Dieu, mais vraiment être complètement dedans, se laisser aller dans la grâce de Dieu, pour être façonné, pour être modulé, transformé par la grâce de Dieu. Amen. Verset 33. Oups. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Paul, dans son ministère, au début de son ministère surtout, il avait travaillé de ses propres mains. Il y avait un métier séculier. Il était faiseur de tentes. Et c'était un bon métier qui ramenait quand même pas mal d'argent. Du coup, il pouvait subvenir à ses besoins. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Il est en train de dire qu'il n'a jamais cherché à s'enrichir pour lui-même. D'ailleurs, il a même travaillé de ses mains pour subvenir à ses besoins et même aux besoins de ses collaborateurs. Il n'a pas juste travaillé pour son ministère. Il a même travaillé pour donner de l'argent aux autres collaborateurs qui avaient besoin des besoins financiers. Bien sûr, il recevait aussi souvent des dons qui lui permettaient d'œuvrer pleinement pour le Seigneur. Au verset 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il dit même, oui, il faut soutenir les faibles. Là, quand je dis il faut soutenir les faibles, pas seulement les soutenir les faibles côté financier, pas du tout, c'est vraiment faible en tout point, que ce soit dans les différents domaines spirituels, psychiques, moral, physique aussi, qu'on puisse vraiment être un soutien pour mon prochain. En tout cas, ici, à travers ces paroles, nous ne voyons pas de convoitise dans la vie de Paul. Vraiment, il était très simple, très humble. Son amour pour Dieu et pour le prochain, on le voyait aussi à travers ses simplicités, et ce qui lui permettait d'être un bon leader. À la fin de ce verset 35, il dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'est une parole qui a été donnée par Jésus lui-même. En fait, il cite la parole de Jésus. Jésus avait dit ceci, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et il répète la parole de Jésus en disant que oui, je fais tout ça, je me sacrifie, je fais de l'évangélisation, je travaille de mes mains aussi pour pouvoir venir aux besoins des autres, pour aider les autres, pour mon prochain, parce que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je dirais même, celui qui a montré l'exemple parfait, qui a aimé à donner, c'est celui, bien sûr, c'est Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même sur la croix. Pour nous, pour vous, pour le salut de tout le monde. Oui, le serviteur de Dieu que nous représentons est le plus heureux quand on se met corps et âme pour ce que Dieu nous a confié et que ça permet en tout cas d'avancer, aider les autres, aider mon prochain de tout notre cœur. C'est quelque chose qui est très important. Cette semaine, j'étais vraiment attristé. Pourquoi? Parce que j'ai une voisine qui est partie à cause d'une maladie de cancer. Et on était dans la même, sur le même étage, donc on se connaissait bien. Les enfants avaient à peu près le même âge, donc on pouvait aussi, on se croisait assez régulièrement. C'était une jeune maman, plus jeune que moi, voilà, mais qui est partie assez rapidement. Ça m'a beaucoup attristé, d'autant plus que cette personne était tellement douce, tellement gentille qu'au moment de recueillement, je voyais tous les voisins étaient présents. Tous les voisins, presque tous les voisins étaient présents pour l'accompagner, pour dire un dernier adieu à cette dame, gentille dame. Quand elle était malade, j'ai pu assister, j'ai pu l'accompagner un petit peu. J'ai pu envoyer aussi pas mal de textos pour dire que le Seigneur est présent avec elle. Ça l'a beaucoup rassurée. Elle était catholique, mais elle avait bien entendu le message. Il y avait un besoin et j'étais présent. Je pense que dans votre vie, il y aura toujours des moments où il y aura un besoin que peut-être vos proches auraient besoin de vous. Est-ce que vous allez répondre oui je vais peut-être pouvoir aider à cette personne ou pas. Moi, je n'ai pas grand, j'ai pas fait grand de choses. J'ai juste été présent, j'ai juste présenté l'évangile, j'ai juste lui rappelé l'essentiel, comment nous allons rejoindre le Seigneur. D'autant plus qu'il y a 2 mois de cela, j'ai perdu mon père, donc je pouvais justement parler de mon expérience pour parler, et ça l'avait beaucoup touché, d'autant plus. Et voilà. Votre prochain, un jour ou l'autre, aura besoin de vous. Est-ce que vous allez répondre oui à cet appel? Parfois, on peut regretter. Je me suis dit, oh, j'aurais pu encore davantage faire quelque chose. J'aurais pu insister pour aller la voir davantage. Peut-être pour la rassurer. Une fois que c'est fait, c'est fini. Il n'y aura que des regrets. Moi, j'ai des regrets aussi. Même si j'ai été présent à un moment donné, j'ai encore quand même quelques regrets. J'aurais pu. Pour la rassurer davantage. Même si elle était en paix, j'aurais pu encore faire quelque chose. Que nous ne soyons pas des gens qui regrettent à la fin, mais qu'on puisse faire tout notre possible pour aider mon prochain. Parce que une fois que le temps est passé, c'est passé. Le jour J, le Seigneur nous demandera aussi compte. Je vais conclure. L'Église, d'après le texte des Actes, chapitre 20, d'après la recommandation de Paul, l'Église devrait être sous l'autorité de Dieu, sous sa protection. Que vraiment l'Église de Vendôme soit sous l'autorité de Dieu, sous sa protection, sous sa parole. Et que l'Église de Vendôme n'hésite pas à annoncer l'Évangile avec courage, malgré les contraintes, parce qu'il y aura des contraintes. Et quel message qu'il faut annoncer? La repentance à Dieu, mais aussi la foi. On ne prêche pas n'importe quel message, on prêche l'Évangile, surtout la venue de Jésus-Christ qui est mort, ressuscité et qui reviendra. Ce message, le salut d'espérance, il faut le prêcher. Que l'Église puisse aussi travailler avec joie malgré les difficultés et aussi être prête au moment où justement des loups entrent dans cette Église pour secouer l'Église. Dans ce cas-là, si nous sommes bien ancrés dans la parole de Dieu, dans la vérité, nous ne serons pas ébranlés, parce que nous serons forts spirituellement et théologiquement. Que vraiment le Seigneur nous accorde la sagesse. Vous savez, cette année, il y aura beaucoup d'activités qui recommencent, donc il y aura des études bibliques, il y aura des cellules, des groupes de maison qui vont reprendre. Il y aura plein d'opportunités où nous pouvons apprendre et approfondir notre connaissance. Engagez-vous pour que vous puissiez vraiment approfondir et apprendre toutes ces sagesses de Dieu, cette vérité de Dieu. Pour qu'au moment où justement des loups entrent, qu'on puisse être fort. Que l'Église continue à prier avec larmes pour son prochain, pour les faibles parfois, en les reprenant et en les exhortant. On ne peut pas toujours dire des bonnes paroles, des paroles de... Qui rend joyeux des personnes. Non, parfois aussi, l'Église doit aussi savoir reprendre, mettre sous discipline, etc. Mais tout ça avec amour. Mais comme Paul, qui a beaucoup prié pour les uns des autres, que chacun de nous puissions prier aussi avec larmes pour mon prochain. Pour les gens, pour mon frère et ma sœur qui est ici, mais aussi pour mon prochain qui est autour de nous. Que l'Église aime plus à donner qu'à recevoir. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est vrai qu'à la fin de cette rencontre entre Paul et les responsables d'Éphésiens, c'est à genoux et dans la prière que s'est terminée leur rencontre. Vraiment, il y avait beaucoup d'empressement, beaucoup de tristesse, parce que les Éphésiens ont su que c'était la dernière fois qu'ils voyaient Paul. Mais le message qu'ils avaient reçu était vraiment très très fort. Et Seigneur, ce matin, j'aimerais vraiment que tu nous parles davantage, que ce message ne soit pas juste entendu et oublié, mais que nous puissions avancer avec ce message que nous avons entendu. Oui, tu nous recommandes vraiment, Seigneur, à être sous ton autorité, sous ta parole, sous ta grâce, Seigneur, pour avancer, pour annoncer, Seigneur, la repentance, mais aussi, Seigneur, la foi en Jésus-Christ. Ce message, c'est essentiel qu'on puisse vivre tous les jours de notre vie, qu'on puisse être vraiment plongé dans cette grâce pour pouvoir transmettre aux gens. Tout d'abord, il y avait aussi ce message où nous devons nous veiller. Oui, Seigneur, en commençant par les responsables, mais aussi que chaque personne de cette Église, chaque chrétien dans le monde puisse veiller à ta rencontre. Seigneur, oui, nous savons aussi que tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui est très proche et qui aussi reviendra un jour, que nous puissions aussi préparer ce jour J. Nous te remettons vraiment notre Église de Vendeuvre qui puisse vraiment aimer davantage à donner qu'à recevoir pour aussi respecter ta parole. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.